Ce soir, le troisième principe, c'est le langage. Ce qui ressort fortement, le contraste est aussi très fort dans le texte entre Saül et son armée d'un côté et de l'autre côté David. Il y a la vision et la visibilité, il y a deux écoutes différentes et il y a aussi, c'est logique, deux façons de parler totalement différentes. Malheureusement, combien de fois, frères et sœurs, devant nos Goliaths, nous ne savons pas quoi dire. Dans les circonstances de la vie, nous ne savons pas forcément quoi dire. Nous écoutons malheureusement de mauvaises voix. Ce que j'écoute alimente mes pensées. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ce sont mes pensées. Mes pensées, comment elles ont été alimentées ? Ben parce que j'ai écouté. J'ai écouté certaines choses. Ça a fait son chemin en moi. Puis ensuite, ben, il faut que ça sorte et je le répète. Ce que j'ai écouté a alimenté mes pensées. Et ensuite, mes pensées ont été véhiculées par mes paroles. Vous savez, frères et sœurs, nos paroles, pas quand tout va bien, quand tout va mal, nos paroles sont un excellent indicateur de notre santé spirituelle. Écoutez-vous parler quand ça ne va pas, et vous savez à quoi vous en êtes. Verset 25, l'armée de Saül, elle est bien gentille, mais franchement, ils n'ont rien à raconter. Chacun disait, voilà les bruits qui circulaient au sein du peuple, au sein de l'armée. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Sans blague, je ne l'avais pas vu. Et malheureusement, ils ont sur tout le chapitre, l'armée n'a que ça à dire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce que tous les gens qui ne savent pas quoi dire font. Ils se contentent de faire et de refaire sans arrêt le même constat des circonstances négatives. Vous avez vu le frère Intel ? Ça va vraiment pas bien, c'est de pire en pire. Vous avez vu la sœur machin ? Ça s'arrange pas du tout. Oui, merci, je sais, ça fait des années. Et c'est pas parce que je vais faire un énième constat des circonstances que ça va aller mieux. Mais c'est plus fort que moi, c'est humain, il faut que j'en parle. Et comme j'ai pas de réponse, comme j'ai pas de solution, eh ben je fais encore un constat des circonstances. Le peuple, Saül, l'armée, ils avaient écouté Goliath, verset 11, on l'avait vu hier, ils ont pris peur, ils se sont enfermés dans la crainte. Et là, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idée. Et on voit qu'ils sont en train de tourner en rond dans leurs propos. Il n'y a pas de pensée de Dieu, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Il y a juste un constat sans arrêt répété des circonstances. Ah, il y a Saül aussi, alors attendez, Saül c'est pas mal non plus. Le peuple, c'est le verset 25. Et puis il y a Saül, verset 33. Ah ben Saül, je vous en ai un peu parlé hier soir, hein, c'est la voix de la raison, c'est la voix de la pseudo-sagesse. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et lui c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu sais, Goliath, il est suréquipé, il est surentraîné, il en a eu d'autres avant toi, sans blague. Il y a un géant, il est très grand. Ben oui, justement, c'est le principe du géant, il est tellement grand, je ne pouvais pas le rater. Hein. Je l'ai vu, merci, merci. Vous savez, frère, il y a ça comme problème dans l'église. Non ! Il y a des problèmes dans l'église à Manosque ? Sérieux ? Ah mais moi, je repars en Normandie, on ne m'avait pas tout dit. Ah ben non, il fallait me prévenir, quelle déception, oh ben vraiment. Le constat des circonstances, ça ne sert à rien du tout. Quelle différence quand on regarde le langage de David. David, il ouvre la bouche, mais ce n'est pas pour dire ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il l'a vu, il le sait, on a compris, merci. Mais David, il va commencer à avoir un langage différent. Il a une vision différente, il a une écoute différente, donc c'est logique, c'est le troisième point, c'est un lien de cause à effet, il va avoir un langage, une façon de parler différente. verset 32, que personne ne se décourage face à ce problème. C'est bien la première fois qu'il y a quelqu'un qui ose dire que personne ne se décourage. Ils sont tous découragés, mais David, il a un message contraire. Que personne ne se décourage. Et sa façon de parler tranche avec la façon de parler de Saül et de l'armée. Verset 37, David dit encore, « Ah, quelqu'un qui a quelque chose à raconter qui glorifie Dieu. L'Éternel, il n'a pas dit, tu sais, moi j'ai de l'expérience, on verra ça plus tard. Moi j'ai de l'expérience, le lion, l'ours. » Non. Il a dit, « L'Éternel, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a permis de. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et là on passe dans un langage qui n'est pas un langage positif, mais qui est simplement la confession de ce son cœur croit, il a une bonne expérience passée avec Dieu, il ne vit pas dans son passé, mais il va confesser ce que Dieu a fait. Combien de fois, frères et sœurs, quand on est confronté à des circonstances qui nous font peur, en l'espace de quelques mois, pour ne pas dire quelques jours ou quelques heures, c'est bizarre avec quelle vitesse on oublie ce que le Seigneur a fait dans le passé. Comment on peut oublier aussi vite les victoires passées ? Et c'est une façon pour dire, mais attends mon frère, ma sœur, t'as vu tout ce que t'as vécu hier ? Mais Dieu n'a pas changé. C'est ce qu'il est en train de dire. L'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore parce qu'il ne change pas. Donc il a un discours qui est branché sur Dieu, parce qu'il a un cœur qui est branché sur Dieu et une oreille qui est branchée sur Dieu. Du coup, son langage est totalement différent. L'Éternel est le même, il ne change pas. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Il y a quand même une façon de parler totalement différente. Je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Je vous l'ai dit hier soir, dire à un homme qui est surentraîné, suréquipé, que vous allez lui couper la tête quand vous-même, vous n'avez même pas d'épée, il faut déjà être gonflé quand même. Hein ? Mais il était gonflé de Dieu, donc ça va. Quelle différence de langage ! Aujourd'hui, je vais t'achever et donner ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Verset 47, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, la victoire appartient à l'Éternel. Ah, enfin, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et il vous livre entre nos mains. Vous savez, frères et sœurs, notre langage en dit long sur nous. Et il faut bien comprendre que notre langage est alimenté, il est dépendant de la vision que nous avons de Dieu. Notre langage est dépendant de notre écoute de Dieu. Et c'est simplement cette vision et cette écoute qui vont me permettre d'avoir un langage différent, qui vont faire quoi au final ? Qui vont me permettre de parler comme Dieu parle. Quand il y a des problèmes, des impossibilités devant moi, j'ai besoin de voir comme Dieu voit, j'ai besoin de penser comme Dieu pense, il faut que je raisonne comme Dieu raisonne, il faut que j'ai la logique que lui il a et que je parle comme lui il parle. Et David ne s'est pas forcé à parler comme ça. C'était naturel. Parce que, et je le redis, hein, ce n'était pas de la pensée positive, ce n'était pas une certaine audace, ce n'était même pas de la confession positive. Parce que parfois, un jour, quelqu'un m'a posé la question, « Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la confession positive ?» Je ne suis pas d'accord. Parce que je prends des textes de la parole de Dieu et je vais répéter ces choses-là en espérant que parce que je les répète, ça arrive. C'est de la confession positive. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne doit pas être de la confession positive, je ne dois pas me forcer. Ça doit être naturel. Et si je suis vraiment le cœur branché sur Dieu et que je sais comment il fonctionne, je sais comment il raisonne, je pense comme il pense, je l'écoute et je raisonne comme il raisonne, je n'ai pas besoin de me forcer. Naturellement, je vais parler comme lui. Et ici, le langage de David, il est juste normal. Il passe pour être quelqu'un d'extraordinaire, mais en réalité, il n'a rien d'extraordinaire. Il est juste normal. Ce n'est pas l'armée qui est normale et David qui est au-dessus. Non, non, non. C'est David qui est normal et malheureusement, l'armée qui est moins. Et pour avoir ce genre de langage, vu la vision et l'écoute qu'il avait de Dieu, ce langage dans la bouche de David était naturel, c'était spontané, il ne s'est pas forcé, il n'a pas joué un rôle, il n'a pas essayé de se convaincre, il n'a pas essayé de faire bien devant un roi pour l'impressionner, il n'a pas essayé d'épater les autres soldats de l'armée. Non, c'était naturel. Il y a un géant devant moi, mais Dieu l'a permis, c'est pour que je le renverse. Il est là pour ça, il n'est pas là pour autre chose, ton géant. Il est là pour que tu le renverses. Les paroles, vous le savez, nos paroles ne sont jamais anodines. Si vraiment, je prends le temps, frères et sœurs, si vraiment on pouvait réaliser à quel point il y a de la puissance dans nos paroles. La langue est certainement le membre le plus puissant, spirituellement parlant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18. Ça me dit qu'il n'y a pas de parole anodine. Il n'y a pas de petites paroles. Il n'y a pas de paroles qui sont comme ça. Oh oui, mais vous savez, j'ai dit ça comme ça, je ne pensais pas ce que je disais. Et malheureusement, nous ne sommes pas conscients, souvent, je pense, de la portée réelle de nos paroles. Beaucoup de chrétiens ne soupçonnent pas la véritable puissance qu'il y a dans leurs paroles. Lorsque l'apôtre Jacques, dans son épître, va employer différentes images, des métaphores, des analogies au sujet de la langue, c'est pour amener les chrétiens à prendre conscience qu'il y a un pouvoir extraordinaire, que ce petit membre qui a l'air anodin, ce petit membre qui est insignifiant, parce qu'on ne le voit pas, même quand vous parlez, on ne voit pas votre langue. C'est vraiment quand on tire la langue, qui est du coup un geste déplacé et indécent, mais qu'on voit la langue. Sinon, la langue, même quand on parle, on ne la voit pas. C'est un membre extrêmement anodin, insignifiant, mais dont les conséquences et la puissance sont insoupçonnées. Et pour nous aider à comprendre ça, il dit « Regardez les navires. Les navires, ils sont énormes. Ils sont au gré des vents. Mais qui pilote le navire ? C'est même pas les vents. C'est celui qui est derrière le gouvernail. Et le gouvernail, c'est la plus petite pièce du navire. Pas gros, un gouvernail. C'est comme ces petites étincelles, ces petites allumettes, c'est que vous laissez tomber inconsciemment dans une période de canicule en Provence, là dans une forêt qui est super desséchée, vous laissez tomber un truc, la langue c'est le petit feu, c'est la petite étincelle. Et pourtant c'est ça qui va brûler la forêt. Et frères et sœurs, il faut comprendre que nos paroles ont toujours des conséquences. Elles ont des origines. L'origine, c'est ce que j'écoute. Ça a des conséquences dans ma vie. Et ensuite, mes paroles vont avoir des conséquences à l'extérieur. Mais nos paroles ont toujours des conséquences. Avec vos paroles, vous pouvez faire soit le plus grand bien, soit le plus grand mal. Il faut comprendre que dans la Bible, alors ça ne marche pas en français, mais en hébreu, le verbe parler et le verbe créer ont la même racine. C'est une racine commune. Parler et créer, en français, ça ne nous dit rien, on ne voit pas le lien de cause à effet. Mais dans les écrits originaux, dans l'hébreu, parler et créer, ça a la même racine. Parce que la parole crée toujours quelque chose. De bon ou de pas bon. La parole engendre toujours quelque chose. C'est quand même bien par sa parole que Dieu a créé les cieux et la terre. La parole crée. La parole est créatrice. C'est quand même bien par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, l'action conjointe de l'Esprit et de la parole, que nous sommes nés de nouveau. Comment est-ce qu'on a été créé spirituellement parlant? Comment est-ce qu'on est né à la vie de Dieu? Pierre dit, vous avez été régénérés par une semence, la parole vivante, par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est comme ça que vous êtes arrivés à la vie spirituelle. La parole crée. Paul dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, il parle de la foi, de la vraie, de celle qui vient de Dieu. Mais la mauvaise foi, elle vient aussi de mauvaises paroles. C'est un principe. La parole, frères et sœurs, elle engendre toujours quelque chose. Il faut comprendre que mes façons de parler, les mots qui sortent de ma bouche, dans les circonstances contraires, ne sont pas anodines. Je l'ai déjà dit, je le redirai souvent, c'est un point crucial de la vie chrétienne, de la marche des églises, de la marche du peuple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est important au plus haut point. Lorsque vous parlez selon ce que vous dites, soit vous ouvrez une porte à Dieu et vous fermez une porte au diable, ou alors par vos paroles, vous fermez la porte à Dieu. Est-il tout puissant? Bien sûr qu'il l'est, mais je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Et vous pouvez fermer des portes à Dieu, le laisser à l'extérieur d'une situation et ouvrir grand une porte au diable. Et à ce moment-là, il commence à faire ses œuvres de destruction dans les cœurs, dans les vies. Prier, c'est une chose. Mais si une fois que j'ai fini de prier, je fais du dégât avec ma langue dans la vie de mes enfants, est-ce que vous comprenez qu'en deux phrases, vous pouvez casser 2 heures de prière, 20 ans de prière? La prière, ça ne fait pas tout. La prière, c'est un principe du royaume de Dieu parmi tant d'autres. Et combien de fois, pardonnez-moi, j'ai vu des gens me dire « Mais pourtant je prie !» Oui, ben ça j'ai bien vu que tu pries, puis avec cœur, avec sincérité, avec bonne volonté. Mais ce n'est pas sur la prière qu'il faut te pencher, ça tu l'as, c'est bien. C'est sur les autres principes. Et bizarrement, dans ce texte, je vous l'ai dit hier soir, il n'y a pas une seule référence qui me montre à quel moment David aurait prié. Ça aurait quand même été le béaba de n'importe quel pasteur ADD de Pentecôte avant d'aller dans un défi, de dire, oh là, on va prier hein, les frères, parce que là on est mal, hein, il faut vraiment comprendre, on va prier avant la réunion. Hein. Mais à quoi ça sert que tu pries si tu as cassé quelqu'un avec ta langue? Ça ne sert plus à rien. Et prier, ce n'est pas un acte superstitieux. Prier, ce n'est pas juste avant de manger. Prier, ce n'est pas avant la réunion. Ben, je vais vous choquer, je n'ai pas prié avant de prêcher ce soir. Voilà, c'est fait, c'est clair, c'est net, c'est dit, je n'ai pas prié. Parce que la prière, ce n'est pas un rituel. La prière, ce n'est pas un créneau horaire. La prière, ce n'est pas avant le culte, ce n'est pas avant ceci, ce n'est pas avant manger. La prière, c'est un état de cœur, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre avec Dieu. Et j'ai besoin d'avoir une vie de prière. Ça, c'est vrai. Mais du moment que j'ai une vie de prière, ben, ça tourne. Excusez-moi, j'ai vraiment à cœur d'insister là-dessus. Regardez les sportifs, les champions, les athlètes. Les athlètes, ils ne se mettent pas à manger des sucres lents, ils ne se mettent pas à manger des pâtes une heure avant d'aller faire leur marathon. Ça fait longtemps qu'ils se sont préparés. Leur corps est baigné dans toutes sortes de vitamines, de protéines, de bons glucides, etc., de sucres lents. Tout est prêt, tout est calculé depuis longtemps, parce que leur corps, il est baigné là-dedans. C'est une façon de vivre, c'est une façon de s'alimenter. Il y a une discipline. Ce qui fait qu'au moment où il doit faire un effort, bah, il n'est pas obligé de dire « Attendez, on ne fait pas la course, je vais acheter des spaghettis, puis je vais... » L'athlète, il ne va pas dire « Attendez, avant la compétition, je vais faire mon jogging, je vais faire mon tour de stade. » Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'entraîne, j'ai une compétition tout à l'heure. Et il y a des chrétiens, pardonnez-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'ai un problème demain, attends, je prie, j'ai un problème, je prie. Non mais c'est trop tard! C'est trop tard, c'est une façon de vivre, d'accord? Et au moment où tu es surpris, parce que le Goliath, il ne va pas forcément te prévenir, il ne va pas t'envoyer un mail ou un accusé de réception pour te dire qu'il va arriver. Il va arriver au moment où tu t'y attendras le moins, il va arriver au moment où tu n'auras pas eu le temps de prier, il va arriver au moment où tu n'es pas au point spirituellement avec le Seigneur, où tu as eu un moment difficile. Ben oui, j'ai besoin d'avoir une vie avec Dieu. La vision, c'est une façon de vivre. Écouter Dieu, c'est une façon de vivre. Prier, c'est une façon de vivre. Parler aussi, c'est une façon de vivre. Et autant la parole, je ferme la grande parenthèse, autant la parole de Dieu, créatrice de bonheur, créatrice de vie, elle me construit, elle m'encourage, elle est ma lumière, autant bizarrement la parole humaine peut être, mais dévastatrice. Vous savez très bien qu'il y a des choses que vous avez entendues, qu'on vous a dit à 30 ans. Vous vous souvenez mot à mot de la phrase. Ce n'est pas une pensée. Non, non, vous vous souvenez mot à mot de la phrase que ce pasteur ou ce chrétien ou ce collègue vous a dite. Votre langue, c'est un potentiel de vie, un potentiel de mort. C'est un potentiel de foi ou un potentiel d'incrédulité. Quand j'entends Saül et quand j'entends son armée, ils n'ont rien à dire. Mais quand j'entends David, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. C'est un potentiel de foi. Il me communique quelque chose par la parole. Alors par moment, quand on ne sait pas quoi dire, ben pardonnez-moi, ce n'est pas méchant, il faut se taire, il ne faut rien dire du tout. Il faut avoir l'humilité de dire, écoute mon frère, ma soeur, je préfère ne rien dire. Parce qu'au moins on ne dit pas de bêtises, au moins on ne fait pas de mal. Lorsque le peuple n'est pas prêt, Moïse savait très bien, devant la mer Rouge, il savait très bien que le peuple n'était pas prêt à ce genre de choses, c'était une espèce de géant. Pharaon avec son armée derrière, c'était un grand géant, et de l'autre côté, il y avait la mer. Et à un moment, Moïse, il a dit, s'il vous plaît, il n'a même pas dit s'il vous plaît, il a dit, gardez le silence. Je ne vous demande pas des paroles de foi, je vous demande au minimum, s'il vous plaît, taisez-vous, gardez le silence. Au moins, vous n'allez pas casser la baraque, vous n'allez pas casser l'œuvre de Dieu. Au moins. Vous n'allez rien construire, mais au moins, vous n'allez rien casser. Si déjà vous commencez par ne rien casser dans l'œuvre de Dieu, merci. C'est déjà pas mal pour ceux qui construisent. Et Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Lorsque Josué, devant Jéricho, c'était aussi une forme de géant, c'était un grand enjeu. Lorsque Josué est arrivé, il leur a dit, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Voilà le plan, on va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais pendant ce plan, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et quand je vous dirai de pousser des cris, vous pousserez des cris. Vous imaginez si le pasteur, il vous dit... Maintenant, s'il vous plaît, il ne sort plus un mot de votre bouche, je ne veux plus rien entendre dans l'église de Manosque, plus rien. Et vous parlerez quand je vous le dirai. Pour qui il se prend celui-là? Pourtant, c'est ce que Josué a fait, parce qu'il savait. Le plan était fou humainement parlant. Il fallait avoir une vision de Dieu. Josué était à l'écoute de Dieu. Il savait où il emmenait le peuple, d'accord? Et il s'est dit... Là, je paraphrase, j'invente, j'infère. Il a dû se dire, quand ils vont être en train de tourner autour des murailles, c'est sûr que la raison humaine va rattraper leur foi. Et il y en a forcément un qui va lâcher la petite étincelle. Et Josué a dit, il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et vous pousserez des cris quand je vous le dirai. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, Manosque? Je tente quand même, hein. Ben oui, qui ne tente rien n'a rien. On sait aussi que les espions qui ont été envoyés par Moïse sur l'ordre de Dieu inspecter le pays de Canaan, ah, ils n'ont pas eu besoin d'être plusieurs milliers pour décourager le peuple, il a suffi de 10. Hein. Pour que 10 personnes réussissent à décourager un peuple entier, c'est qu'il y a de la puissance dans nos paroles. Hein. Ah, c'est sûr. Et frères et sœurs, combien malheureusement, souvent, on ne se rend pas compte que notre vie est remplie de paroles négatives. On le fait naturellement. On s'en rend même pas compte. On est négatif. On s'en rend même plus compte. Moi, j'appelle ça des confessions anti-bibliques. Non pas qu'on parle contre la Bible. C'est la parole de Dieu, on l'aime, on la respecte. Mais anti, au sens littéral, c'est à la place de. Au lieu de confesser la parole de Dieu, on confesse autre chose. Au lieu de parler comme Dieu, au lieu de parler le langage de Dieu, au lieu de parler le langage de la Bible, on a des confessions anti-bibliques, à la place de la Bible. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas naturellement « Je peux tout par celui qui me fortifie » ? Pourquoi on commence toujours par dire « Ah, j'y arriverai pas. Ah, je peux pas, c'est plus fort que moi. » Ça ferme une porte au Saint-Esprit et ça ouvre une porte à l'ennemi. Puis après, on dit « Tu vois, je te l'avais dit que j'y arriverai pas. » Ben oui, évidemment. Comprenons bien que si David a pu parler ainsi, il ne s'est pas forcé, il ne s'est pas convaincu ou persuadé. Il était rempli de la vision et de la pensée de Dieu. Et il a eu un langage naturellement différent. Le point suivant, moi ce qui m'impressionne, c'est son degré d'engagement personnel envers Dieu. C'est la passion qu'il a pour Dieu. David n'était pas centré sur lui, il était centré sur Dieu. La tendance naturelle de la nature humaine, quand elle voit un géant, une impossibilité, un problème, je le redis, quelle que soit la forme de votre géant, j'ai expliqué hier soir les différentes circonstances. Mais quand il y a un géant qui se dresse devant moi, c'est humain. La première chose que je fais, je ramène tout à moi. C'est humain, c'est comme ça. C'est une tendance. J'y peux rien, vous non plus. Il faut simplement avoir ensuite une bonne vision, une bonne écoute, un bon langage. Changer. Je vois dans ces différents textes que David, lui, ne ramenait pas tout à lui. Il ne centrait pas tout sur lui. Il ramène tout à Dieu. Et en réalité, David ne fait aucun cas de sa vie. Il ne se soucie pas de sa vie. Il ne se soucie pas de sa réputation. Sa vie n'est pas centrée sur lui-même. David ne pense pas à son nom, à lui. Il ne pense pas à la façon dont il va s'en tirer ou pas. Il ne pense pas à sa petite personne. Il ne pense pas à sa réputation. Il n'est pas dirigé, il n'est pas conduit par le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si jamais Goliath y m'en colle une ? Ou alors, comment on va me regarder dans l'église si je renverse Goliath ? Wow. À moi la gloire en 5 bémols. Et David, il n'y a rien de tout ça dans ses propos. Il ne pense pas à lui. Il m'interpelle vraiment. Verset 26. Regardez, écoutez bien ce qu'il dit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» etc. Qui ôtera ? Et lui commence déjà à considérer qu'il y a une opprobre sur le peuple. David, il est amoureux du peuple. Il est amoureux de son Dieu. Il est amoureux du peuple de Dieu. Le nom de Dieu, Saül, il n'en a rien à cirer. Excusez-moi, il pense qu'à lui. L'état du peuple, l'état du troupeau, l'état des brebis, Saül, ça ne l'intéresse plus. Mais David, lui, ce qu'il voit, c'est le nom de Dieu et la honte, l'opprobre. C'est ça que ça veut dire l'opprobre. La honte qui est là sur le peuple. Qui va ôter l'opprobre du dessus d'Israël ? Et qui est cet homme, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Et là, il commence tout de suite déjà à tout ramener à Dieu. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur, il y a de l'humilité, C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et pour David, quand le peuple de Dieu va pas bien, quand le nom de Dieu n'est pas glorifié, c'est insupportable. Que Dieu ne soit pas honoré et reconnu, élevé, glorifié, reconnu comme Dieu, c'est insupportable. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, etc., etc. Et il termine. Et toute la terre saura que le prochain roi d'Israël, c'est moi, c'est David. Ben non, il n'a pas dit ça. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David, c'est un passionné pour Dieu. Il a un degré d'engagement intérieur. Et c'est ça qui fait aussi de lui un homme selon le cœur de Dieu, qui fait un homme de lui un homme courageux, un homme de valeur, un homme qui n'a pas peur, parce qu'il est déjà rempli de la mentalité de Dieu. Verset 47, encore, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, Dieu est omniprésent dans son discours. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance, c'est-à-dire c'est pas avec des moyens humains, que l'Éternel sauve, parce que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel. Dieu est omniprésent dans son discours. Tu as insulté le nom de l'Éternel des armées. Et on voit David qui est totalement désintéressé. Il cherche la gloire et l'honneur du nom de Dieu. Je sais, frères et sœurs, que quand il y a un géant devant nous, quand on est face à une impossibilité, quand il y a un gros problème, quelle que soit sa forme, c'est nous qui sommes dedans. Ce n'est pas le voisin. C'est nous qui sommes dedans. Et ce n'est pas facile. C'est vrai. Mais la réaction de David, ce n'est pas de se dire « comment est-ce que je vais m'en sortir ?» La réaction de David, c'est de dire « mais comment est-ce que le nom de Dieu va être glorifié dans cette situation ?» Bien sûr que si je suis malade, c'est légitime que je voudrais être en bonne santé, bien sûr. Mais la pensée première, c'est comment est-ce que ton nom va être glorifié, Seigneur ? Comment on va reconnaître ton nom dans cette situation ? Comment est-ce que tu vas, toi, comment tu vas t'en sortir, Seigneur ? Comment ton nom, il va sortir du lot ? L'enjeu, c'est pas moi. L'enjeu, c'est la grandeur du nom de Dieu. C'est son moteur, c'est sa motivation. C'est à la fois la raison pour laquelle David fait les choses et c'est à la fois le but pour lequel David fait les choses. Tous les grands hommes de Dieu, sans exception, avaient ce point commun. Dieu a fait d'eux des grands hommes. Parce qu'ils avaient ce trait de caractère, ils avaient ce cœur, cet engagement pour Dieu. Ils étaient passionnés par le nom de Dieu. Vous regardez un homme comme Moïse. Moïse, il est sur la montagne. Et alors que Moïse est sur la montagne avec Dieu, le peuple en bas s'impatiente. Et vous connaissez malheureusement ce fameux, tristement célèbre récit du veau d'or. Le peuple s'impatiente, il commence à mettre la pression sur Aaron. Aaron commence à céder au peuple, il n'a pas assumé ses responsabilités de leader, il cède au peuple. Et c'est Dieu qui avertit Moïse, qui lui dit « va, descends maintenant, parce que ton peuple s'est corrompu ». Et dans ce dialogue entre Dieu et Moïse, Dieu dit à un moment « maintenant ma colère va s'enflammer contre ce peuple. Mais toi je te garde avec moi et de toi je vais faire une grande nation ». Merci Seigneur, ouf! Je vais éviter 40 ans de problèmes. En même temps, ils ont bien eu ce qu'ils méritaient. On les a suffisamment avertis. C'est tant pis pour eux. Moi, merci Seigneur, je ne vais quand même pas passer ma vie à me coltiner des gens au courraide qui murmurent, qui ne sont jamais contents, qui ne veulent jamais faire ci, qui ne veulent jamais faire ça. Merci Seigneur, ben, je prends ça vraiment comme une grâce de toi, c'est un cadeau de ta part. On y va! Et Moïse, son intérêt, son confort, son nom, son héritage, ça compte pas. Et Moïse, ça peut choquer hein, quand Dieu dit « je vais m'enflammer contre ce peuple, je vais les détruire et je te garde toi hein. ». Mais Dieu savait très bien à qui il disait ça. Hein. Il connaissait le cœur de Moïse. Okay ? Et là, Moïse lui dit « mais Seigneur, mais si ta colère s'enflamme, les Égyptiens vont l'apprendre ». Et comme ils vont l'apprendre, ils vont se dire que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir. C'est donc ton nom qui va être discrédité. Parce que les gens qui ne te connaissent pas, les autres, ils vont penser que tu n'étais pas capable. Voire même que tu n'es pas Dieu, que tu n'existes pas du tout. Et ça, Seigneur, c'est inconcevable. Alors, merci, mais non merci. Je ne veux pas d'héritage, je ne veux pas être ceci, je ne veux pas être cela. Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié dans ce peuple. Oui, ce n'est pas un cadeau ce peuple, mais je veux que ton nom soit glorifié avec eux. Oh là là, quel homme, mais quel homme, quel homme. Et pour Moïse, c'était impensable, c'était inadmissible. Le nom de Dieu, c'était à la fois le moteur de sa vie et l'objectif de sa vie. Le nom de Dieu, c'est la raison pour laquelle je fais les choses et c'est aussi le but dans lequel je fais les choses. Et le moteur, si vous relisez bien Exode 32, le moteur de son intercession, le moteur de sa prière, c'était pas lui. Le moteur de sa prière, c'était le nom de Dieu. Et Moïse ne voulait pas que le nom de Dieu soit bafoué aux yeux de ceux qui ne croient pas, mais au contraire qu'il soit reconnu, élevé, distingué, que le nom de Dieu, dans n'importe quelle situation, reste au-dessus et qu'il ne soit pas sali. Moi, ce n'est pas grave, mais je veux que ton nom ne soit pas sali par cette situation, Seigneur. Ça, mes frères et sœurs, c'est aussi un grand principe de victoire. Frères et sœurs, quand on cherche à tout centrer sur nous-mêmes. On ne le fait pas méchamment, on le fait naturellement. Mais il faut savoir que c'est un facteur de défaite. Bien sûr que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien. Tout ce qu'il le fait pour notre plus grand bien. Mais il le fait d'abord pour sa plus grande gloire. Et Dieu sera toujours servi avant moi d'une façon ou d'une autre. Lorsque Jésus est là en train d'enseigner dans une maison, la foule l'écoute. Il y a tellement de monde qu'on ne peut même plus rentrer dans la maison. Et puis il y a le récit de ce paralytique qui est porté par les quatre hommes. Ils découvrent le toit, vous connaissez, ils amènent l'homme au pied de Jésus. Et alors que tout le monde s'attend à ce que Jésus dise « Lève-toi et marche », Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et là, les pharisiens, les scribes en eux-mêmes, ils disent « Mais qui est cet homme ? » Il blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et là, l'enjeu, je suis désolé, l'enjeu, pourtant, c'est quand même un paralytique. Quoi. Il mérite bien de marcher, ce brave gars. Et Dieu va le guérir. Dieu va faire les choses pour son bien. Mais Dieu va d'abord, Jésus va d'abord faire les choses pour sa gloire et pour son nom. Et l'enjeu, ce n'est pas la guérison. L'enjeu, c'est le nom de Dieu. Et Jésus va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ce qui signifie, afin que vous sachiez que je suis Dieu. Je lui dis, lève-toi et marche. Et l'enjeu, c'était le nom de Jésus. La gloire de Dieu d'abord, et mon bien-être après. Lorsque Jésus enseigne le Notre Père, la prière, une des prières les plus courtes, les plus simples, mais les plus efficaces qui soient dans la Bible, parce que ce n'est pas une prière à réciter, hein. Ce sont des grands principes de prière, des grands principes qui régissent notre vie de prière. Jésus donne quelques phrases très simples. Et dans ces phrases, il y en a 6 au centre. 3 sont consacrées au nom de Dieu. Et les 3 autres sont consacrés aux besoins spirituels et matériels des hommes. Mais d'abord, quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux », et ensuite il y a 6 phrases. Les 3 premières, « Que ton nom, que ton règne, que ta volonté ». Le reste, bien sûr, le reste, bien sûr, mais après. « Que ton nom soit sanctifié », c'est-à-dire que ton nom soit reconnu, qu'il soit élevé, il faut que ton nom soit mis à part. Il faut que ce nom, on le reconnaisse, qu'il soit sanctifié. Le nom de Dieu est saint. Il n'a pas besoin de sanctification. Mais au sens de mis à part, qu'il soit élevé, qu'il soit reconnu dans cette situation. Pierre dira plus tard, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ça veut dire dans votre cœur, mettez toujours le nom de Dieu au plus haut point. Et que peu importe ce qu'il vous arrive, le nom de Dieu reste toujours au-dessus, dans votre cœur. Je termine avec un dernier exemple. Je ne quitte pas le texte de David, hein, de 1 Samuel 17, mais ce sont des principes. Et il faut que vous puissiez voir l'évolution de ces principes et de voir qu'on les retrouve dans tous les textes bibliques. Après avoir, par la grâce de Dieu, remporté une victoire sur Jéricho, Josué, il commet deux grosses erreurs. La première, c'est qu'il oublie de retourner à Gilgal. Ça, c'est un truc qui va lui coûter cher, mais plus tard, il va apprendre et il saura plus tard ce que ça signifie retourner à Gilgal. Mais il oublie de retourner à Gilgal. Et sa première boulette, c'est qu'au lieu de passer, de repasser par Gilgal pour aller vers Haï, de Jéricho, il va directement à Haï. Ça signifie qu'il s'appuie sur sa victoire précédente. Il dit « Maintenant, c'est bon. Maintenant, je sais. » Et de Jéricho, il fonce vers Haï. Et la deuxième boulette, c'est que non seulement il ne repasse pas vers Gilgal, mais c'est qu'il ne consulte pas Dieu. Parce qu'il est devenu fort de sa victoire passée. Et au lieu de consulter Dieu, il consulte ses conseillers. Les conseillers, il y en a des bons. Et vous savez comme moi qu'il y en a des beaucoup moins bons. Ça dépend, est-ce qu'ils sont branchés sur Dieu ou pas ? Tout doit être vérifié par la parole. Et alors que Josué, le peuple, éprouve une grande défaite sur la ville d'Haï, Josué va s'humilier, va revenir au pied de Dieu, évidemment. Mais il y a cette espèce de prière. Ah ça c'est sûr, il a prié. Mais Dieu n'a pas répondu. Parce qu'il y a cette espèce de prière stérile qui tourne autour de « et moi, et moi, et moi, et moi, et moi ». Et là, Josué dit, je cite rapidement, « Ah Seigneur éternel !» Il prie, il est bien en train de parler à Dieu. « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ?» Quand on connaît la symbolique du Jourdain, ça signifie « Seigneur, mais à quoi ça sert que je sois devenu chrétien ? Pourquoi tu m'as emmené là ? Si c'est pour que j'ai des problèmes comme les gens du monde, qu'est-ce que je fais là ? Seigneur, pourquoi avoir fait passer le Jourdain à ce peuple ? Ah, si nous étions restés de l'autre côté ! Pourquoi, 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 pourquoi ? Et Dieu ne répond pas, il garde le silence. Ah, si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais ! Dieu ne répond pas, il garde le silence. Puis Josué, même s'il est à genoux au pied de Dieu, il est quand même en train de penser fortement à lui. Puisqu'il dit, de grâce Seigneur, que dirais-je devant le peuple ? Ben oui, t'as quand même drôlement la honte maintenant, tu viens de te prendre une raclée. En tant que pasteur, forcément, t'es pas fier. Et là, ma réputation devant l'église, pourquoi je vais passer moi et mon nom ? Qu'est-ce que je vais leur dire Seigneur ? Les Cananéens, il insiste, quatrième réflexion, les Cananéens, ils vont faire disparaître notre nom de la surface de la terre. Et Dieu ne répond pas. Et à un moment, Josué, il va retrouver comme un peu la raison, je le dis ainsi, Josué, il va retrouver la raison, et il va le dire, mais et que feras-tu pour ton grand nom ? Et au moment où il dit ça, le contact est rétabli et Dieu lui adresse à nouveau la parole. Prier, c'est une chose, mais prier dans les principes de Dieu, c'est autre chose. Le quatrième principe, frères et sœurs, on en a fini pour ce soir. David est un homme qui est extrêmement engagé de cœur avec Dieu. Il a une passion pour le nom de Dieu. Et ça, c'est la marque de tous les grands hommes de Dieu dans la parole et en dehors de la parole. Autant par sa vision, que par son écoute, que par son langage, que par sa passion pour le nom de Dieu, David a fait toute la différence. Et il y avait dans son cœur tous ces principes spirituels qui sont des principes de victoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il me bénisse et qu'il fasse de nous des gens passionnés. Amen.